Bon. Maintenant, il y a quelque chose d'autre sur lequel je voulais insister, c'est que, en fait, pourquoi ne faut-il pas avoir peur de la théorie de l'évolution, dans le fond, hein, dont l'Église nous dit que, scientifiquement, on l'accepte. Mais parce que, d'une certaine manière, au niveau de l'homme, il y a un seuil qualitatif qui est atteint. Et ce seuil, c'est que la théorie de l'évolution montre que l'évolution a sélectionné un individu, l'homme, qui est maintenant capable de s'opposer à la sélection naturelle. Et ça, c'est déterminant. Donc, c'est ce que Patrick Thore, un spécialiste de Darwin, par ailleurs athée, mais dit, la théorie de l'évolution montre que l'évolution a sélectionné un individu capable de s'opposer à la sélection naturelle. Alors, on a accusé Darwin d'avoir, justement, eu des perspectives eugénistes indignes de l'homme, voulant réduire l'homme à l'animal, etc. Or, dans L'origine des espèces, 1859, Darwin ne parle absolument pas de l'homme. Il dit justement dans ce livre-là qu'il va en traiter plus tard. Et Darwin n'a rien publié sur l'homme entre 1859 et 1871. Pendant tout ce temps-là, des gens ont dit « Darwin a sûrement des visions régressives de l'homme, il a des perspectives eugénistes, etc. » Mais c'est totalement faux, parce que quand Darwin a repris la parole, en 1871, dans un livre qui s'intitule « The Descent of Man », « La filiation humaine », là, il explique sa vision de l'homme. Et que dit-il? Et ça, je voudrais vous lire l'extrait, parce que c'est tout à fait important. Pour à la fois intégrer la théorie de l'évolution, mais pour savoir que la théorie de l'évolution par variation-sélection n'est pas le tout. Parce que justement, à partir de l'homme, ce n'est plus la sélection naturelle qui peut jouer, qui doit jouer en maître. L'homme a la capacité de mettre des barrières et des freins à la sélection naturelle, justement. Et c'est peut-être ça le propre de l'homme. Et Darwin dit ceci dans The Descent of Man, et je vous lis ça. Chez les sauvages, la plupart des faibles de corps et d'esprit sont bientôt éliminés. Et ceux qui survivent affichent généralement un vigoureux état de santé. Nous autres, hommes civilisés, au contraire, faisons tout notre possible pour mettre un frein au processus de l'élimination. C'est Darwin qui parle. Donc nous faisons tout notre possible pour mettre un frein au processus de l'élimination. Nous construisons des asiles pour les handicapés, les estropiés, les malades. Nous instituons des lois sur les pauvres et nos médecins déploient toute leur habileté pour conserver la vie de chacun jusqu'au dernier moment. Il y a tout lieu de croire que la vaccination a préservé des milliers d'individus qui, à cause d'une faible constitution, auraient autrefois succombé à la variole. Ainsi, les membres les plus faibles de nos sociétés civilisées peuvent propager leur nature, dit Darwin. Et ce qu'il dit, et là c'est quelque chose de très étonnant, il va dire, il n'est personne qui s'étant occupé de la reproduction des animaux domestiques doutera que cela doivent être hautement nuisibles pour la race de l'homme. Donc il dit, ce que l'homme fait, quelqu'un qui aurait simplement la perspective de l'élevage dirait, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez survivre les plus faibles. Donc Darwin dit, si on avait cette perspective-là, on dirait, mais enfin, c'est stupide, vous laissez survivre des gens avec des pathologies, etc. Bon, eh bien, que dit Darwin après? Il dit, parce qu'il est effectivement surprenant de voir avec quelle rapidité un manque de soins ou de soins mal adressés conduisent à la dégénérescence d'une race domestique, dit Darwin, parle des animaux. Mais, excepté dans le cas de l'homme, presque personne n'est ignorant qu'il permette à ces pires animaux de se reproduire. Donc, attends, et je vais poursuivre. C'est très intéressant. Donc, il dit, si on avait la perspective, dans le fond, de la sélection naturelle animale, alors on dirait, ben oui, il ne faut pas laisser survivre les faibles, etc. Mais, constate-t-il, dans la société humaine, on préserve les faibles, les pauvres, les estropiés, etc. Et il dit ceci, Et ça, c'est le point qui me semble le plus intéressant. Hein. Il dit que la partie la plus noble de l'homme, hein, donc vraiment la caractéristique la plus noble de l'homme, c'est justement de venir en aide à celui qui a des difficultés, à celui qui est malade, à celui qui est pauvre, etc. Et il termine la filiation de l'homme en disant « Nous devons par conséquent supporter les effets, même indubitablement mauvais, de la survie des faibles et de la propagation de leur nature. Nous devons supporter ces effets parce que, pourquoi ? Parce que la survie du faible constitue the noblest part, la partie la plus noble de l'homme. Donc, ce qui, dans le fond, définit l'homme chez Darwin, c'est cette capacité de mettre un frein à une évolution par sélection aveugle et de protéger ce qui est vulnérable. Or, ça, c'est extrêmement intéressant. Et Darwin lui-même a été, de son temps, opposé viscéralement à Spencer. Spencer, qui était un philosophe qui a beaucoup inspiré les marxistes et qui, dans le fond, disait il faut laisser de côté les faibles et il faut compter uniquement sur les forts. Et il s'est opposé à son propre cousin Galton, qui est le père de l'eugénisme social, qui disait pour qu'une société marche bien, il faut éliminer les pauvres et les faibles. Il faut plus s'occuper, il faut même les éliminer. Et les idées galtoniennes, évidemment, se sont retrouvées aussi dans le totalitarisme nazi, etc. Mais Darwin n'a jamais fait partie de cela. Au contraire, il s'est opposé à son cousin sur base du fait que, en fait, un profond respect de ce qui est faible, de ce qui est fragile, etc. Et dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. À partir de l'homme, qui est de fait le produit d'une sélection naturelle, progressive, qui le sélectionne comme un être avec toutes ses capacités, à partir de l'homme, comme l'homme a des capacités de liberté, de volonté, d'anticipation, etc., il est capable de mettre un frein à cette sélection et à protéger le faible. Mais dans cette protection du faible, du vulnérable, etc., il y a quelque chose de très intéressant métaphysiquement, justement. Pourquoi serait-il si important de protéger le faible, le fragile, le pauvre, etc. Eh bien, on pourrait dire, dans un premier temps, toute l'histoire de la vie, si on y regarde bien, est une histoire de système extrêmement fragile. L'homme est, à ce titre, un des êtres les plus fragiles du monde biologique. Si vous laissez un petit enfant tout seul, il n'est pas capable de se débrouiller. Si vous ne lui parlez pas, il ne parlera plus au bout d'un certain moment, etc., etc. On pourrait dire, le petit homme est extrêmement fragile. Mais c'est cette fragilité qui va faire que l'apprentissage va pouvoir se déployer. C'est le fait que son cerveau ne soit pas entièrement câblé pour faire toutes les tâches qu'il doit faire, qui rend possible, la plasticité cérébrale, qui rend possible l'apprentissage et qui déploie autour de lui un tissu de relations et qui va le faire grandir. L'évolution devient alors évolution culturelle et non plus évolution naturelle, et en plus cette vulnérabilité devient le lieu du déploiement de ce qui a le plus d'humain, de ce qui est le plus humain en l'homme. Regardez autour d'un petit enfant, autour d'un petit enfant, se tissent des tas de relations, parce que précisément l'enfant ne pouvant rien faire tout seul, il dépend. Mais cette dépendance va forcer l'entourage à se donner. Et c'est un peu comme autour de personnes âgées, autour de malades, autour de personnes handicapées. Le fragile va faire ressortir, dans le fond, ce qui est le meilleur en l'homme. Un tissu relationnel peut se créer, peut, si l'on veut, mais ce qui est extraordinaire souvent, c'est qu'un tissu va se créer et le meilleur de l'homme va sortir à l'occasion de cette attention au fragile. Et là, Darwin rejoint quelque chose d'intéressant. Hein. On pourrait dire, ce qui est le propre de l'homme, c'est sa profondeur métaphysique, c'est sa dignité métaphysique profonde, hein, on le rappelait tout à l'heure. Mais cette dignité, d'une certaine manière, peut être cachée par un vernis, hein, de réussite, de beauté, d'intelligence, etc. Mais dans la personne fragile, ne se montre plus que ce qui est essentiel. Le pauvre n'a plus que sa dignité profonde. Il n'a plus à jouer, à se masquer sous une sorte de blindage ou sous un décor. Et dans le fond, le fragile est ce qui fait apparaître cette profondeur. Hein. Et peut-être, probablement, c'est pour ça que Darwin dit que le propre de l'homme ou la nature profonde de l'homme, c'est justement cette attention au fragile. Et donc, je terminerai mon module en disant, la science peut, à première vue, disons, être considérée comme ce qui pourrait être l'ennemi d'une théologie chrétienne ou d'une anthropologie chrétienne. Mais en réalité, quand on comprend bien la science, on voit que non seulement la science n'est pas hostile, mais on pourrait dire la science nous donne une matière à réfléchir et nous conduit sur des points extrêmement intéressants, justement, pour comprendre ces dimensions profondes, philosophiques et théologiques de l'homme. Et entre autres, pour ce qui est de la biologie nous fait comprendre, avec Darwin en particulier, que l'évolution, de fait, a conduit à la structure de l'homme, au terme d'une histoire dans laquelle il y a eu de la liberté, de l'autonomie, des degrés de manœuvre, tout n'était pas téléguidé d'avance. L'être humain émerge dans une histoire où il se pose comme une liberté, mais de plus, prenant conscience de sa liberté, prenant sa liberté au sérieux, il est capable alors de mettre un frein à ce qui était simplement le fonctionnement aveugle de la nature, pour pouvoir justement préserver ce qui montre en creux, hein, la profondeur de l'homme. Et donc on pourrait dire, ce chemin de la biologie met le doigt sur un point essentiel qui est le sens du faible, du vulnérable dans l'histoire de l'homme. Et cela, évidemment, ça ne peut qu'interpeller la théologie dans la mesure où les écrits de saint Paul, par exemple, soulignent l'importance de ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Et donc, le message que je voudrais vous dire, c'est que si vous avez l'occasion, étudiez, intégrez les éléments de la science contemporaine sans peur, avec la volonté de conserver à la fois la vérité totale des sciences et aussi la vérité profonde de la théologie, sachant que d'une certaine manière, entre les deux, comme dit bien Vatican I, il ne peut y avoir de dissension. Car dans le fond, les chemins de la science comme le chemin de la théologie sont, pardon, deux voies qui nous conduisent à la même vérité. Je vous remercie.